Sur la question du nucléaire, les différents candidats à l'élection présidentielle iranienne de juin 2013 partagent le même objectif de permettre à l'Iran d'accéder à la souveraineté nucléaire, ce qui signifie en fait la maîtrise de l'ensemble des technologies du nucléaire civil et en fait, du point de vue de la République islamique, une opposition à ce qu'ils appellent l'apartheid nucléaire imposé par l'Occident sur les pays du tiers-monde. Donc à mon sens, il n'y a pas de différence sur le fond, puisque le nucléaire est devenu une partie de l'identité de l'État de la République islamique, à la fois sur la scène internationale, mais aussi vis-à-vis de l'opinion publique à l'intérieur du pays. Puisque maintenant, il y a une journée du nucléaire chaque année, donc c'est vraiment une célébration nationale, et l'Iran est devenu un pays qui a un objectif nucléaire très avancé. Cela étant, sur la méthode, il y aura peut-être des inflexions. Si c'est un candidat réformiste ou conservateur pragmatique, on va plutôt privilégier le dialogue pour parvenir à l'objectif de la souveraineté nucléaire plutôt que la confrontation systématique avec l'Occident.
Le candidat élu devra faire face à une très grave crise économique qui touche le pays en ce moment et qui est due notamment aux sanctions des Occidentaux.
En fait, l'Iran est très habitué aux sanctions puisque depuis la fondation de la République islamique et la prise d'otages contre les diplomates américains dès les premiers mois de la Révolution, l'Iran est soumis à des sanctions d'abord américaines, puis internationales avec le programme nucléaire iranien. Donc il y a une expérience des sanctions, une capacité à contourner les sanctions, avec notamment une utilisation des pays voisins et des relations donc avec les 15 voisins de l'Iran pour éviter les effets négatifs des sanctions imposées notamment par l'Occident et les États-Unis en particulier. Cela étant, c'est vrai que si les sanctions menacent la pérennité du régime et que le guide suprême pense que la survie de la République islamique est en jeu, il sera peut-être amené à ce moment-là à faire un compromis sur la question nucléaire. Mais compte tenu du fait que l'Iran est un pays pétrolier, qu'il exporte encore du pétrole, même s'il y a une chute des revenus pétroliers, il a, à mon sens, encore une démarche de manœuvre et la capacité à absorber le choc des sanctions.
Vis-à-vis d'Israël, on imagine que les 8 candidats iraniens sont plutôt d'accord, il n'y aura pas de changement de ligne non plus à ce niveau-là.
Oui, puisque en fait, les principales positions en matière de politique étrangère ont été, à quelques exceptions près, définies par l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, qui avait fait de l'hostilité par rapport à Israël, disons, une question fondamentale de l'idéologie de la République islamique. Donc il est impossible pour les candidats, en fait, de revenir sur la question des relations avec Israël, car pour toutes les élites politiques de la République islamique, revenir sur la question des relations avec Israël serait adopter, finalement, les politiques du Shah d'Iran, puisqu'on sait que le Shah d'Iran avait une position plus modérée vis-à-vis d'Israël que celle de la République islamique. Et une des principales ruptures entre les deux régimes avait été la rupture des relations avec Israël.
Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être avec l'élection d'un des candidats à une plus grande implication peut-être de l'Iran dans le conflit syrien aux côtés évidemment de Bachar al-Assad ?
En fait, la question des relations avec la Syrie est gérée par le bureau du guide suprême de la République islamique, donc ce n'est pas dans les attributions du président de la République. Cela étant, toujours sur le plan de la méthode, en fonction du vainqueur, on pourrait avoir des inflexions sur, disons, des stratégies différentes avec un dialogue qui pourrait être privilégié par rapport à une rhétorique qui exacerbe la confrontation, par exemple.